Et oui, nos capacités intellectuelles sont-elles en train de fondre comme neige au soleil en raison des effets de la pollution sur notre cerveau? Cette question est prise très au sérieux. Elle fait l'objet de recherches poussées pour comprendre comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale. La biologiste Barbara Domenech, spécialiste des hormones, est en pointe dans ce domaine. Elle publie chez Odile Jacob un ouvrage sur notre cerveau endommagé dans lequel elle pointe la responsabilité donc des perturbateurs endocriniens. Elle est mon invitée dans un instant et elle répond à toutes vos questions. Le monde est-il sur le point de basculer dans une nouvelle ère géologique? Et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour, et c'est le sujet chaud en ce moment au Cap, au Congrès géologique international. Faut-il déclarer l'avènement de l'Anthropocène, l'ère géologique marquée par l'action des humains sur Terre? On en parle dans un instant en direct depuis l'Afrique du Sud.
Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Mahmoud Mebarek.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Barbara Domenech.
Bonjour Mathieu, merci pour l'invitation.
Mais vous êtes la bienvenue. Est-ce qu'à force de baigner dans la pollution chimique, l'être humain est en train de devenir complètement idiot?
Nous espérons que ce n'est pas complètement idiot, mais...
Un peu quand même.
Il y a quand même pas mal de données qui suggèrent qu'il y a une baisse sérieuse de QI. En même temps qu'il y a une augmentation des maladies neurodéveloppementales.
Ouais.
Donc, on met les deux ensemble et c'est clair que nous avons un problème.
Il y a des solutions quand même à mettre en œuvre pour protéger autant les enfants que les adultes. Hein.
Il faut les protéger. Il y a des solutions. Il y a des solutions qu'on peut prendre au niveau de l'individu. Mais c'est surtout la législation qu'il faut.
Et on va en parler, hein, évidemment, avec vos recherches sur l'impact des perturbateurs endocriniens, sur la formation du cerveau depuis le fœtus, âge critique, jusqu'à l'âge adulte. Et vous allez répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr en cliquant sur l'onglet « Contact » à la page de La Tête au Carré ou directement en nous écrivant à latêteaucarré@radiofrance.com et puis bien sûr toujours avec Twitter et le mot-clé « L'attaque ». Est-ce que l'homme a suffisamment marqué la planète pour la faire basculer dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène?
Dès que vous brûlez une forêt, dès que vous mettez en route un moteur, vous produisez du CO2. Et donc pour nous, comme on a eu la chance de découvrir dans les glaces la composition de l'atmosphère et ce CO2 depuis un million d'années, on voit très bien qu'on, tout d'un coup, on est entré dans ce que l'on appelle l'Anthropocène.
Et c'était la voix du glaciologue Claude Lorius pour savoir justement si nous sommes vraiment entrés dans l'Anthropocène. Les géologues du monde entier sont en train de discuter en ce moment même au Cap. Bonjour Patrick de Vevers.
Bonjour Mathieu Bidard.
Vous êtes géologue, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous êtes en ce moment donc en Afrique du Sud pour ce congrès international de géologie. Quelle est l'ambiance là en ce moment des discussions?
Oh ben vous savez, il y en a qui sont sereines, il y en a qui sont animées, mais c'est à ça que servent les congrès.
Pourquoi cette nouvelle question de nomenclature prend autant d'ampleur autour de l'Anthropocène?
Mais ça, c'est exactement la bonne question. Parce que l'Anthropocène, on peut dire que c'est une réalité, de même que le Paléolithique fut une réalité et la Renaissance.
Qui ne sont pas des ères géologiques.
Voilà. Et c'est là où c'est exagéré, et c'est là où il y a des discussions. Alors c'était intéressant parce que hier, il y avait des communications là-dessus. Et il y avait deux communications qui présentaient, par la même personne d'ailleurs, qui présentaient un point de vue. Et puis il y a eu le président de la commission stratigraphique internationale qui a ensuite rappelé quels étaient les critères pour avoir une ère ou un système, bref, une subdivision de l'échelle des temps géologiques. Et à ce moment-là, les tenants de l'ère géologique anthropocène se sont aperçus et ont reconnu qu'ils ne répondaient pas aux critères. Si vous voulez, pour prendre une image, c'est comme si un groupe de personnes s'est réuni et décide d'acheter un château avant de s'apercevoir qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter le château.
Vous voulez dire que l'idée de passer à l'anthropocène n'a pas été accueillie très favorablement alors?
Ça n'a pas. La question n'est pas soumise, contrairement à ce qui est dit, et ce qui est d'ailleurs un peu étrange, c'est que l'information a circulé avant qu'elle ne soit soumise à la discussion. Comme si, apparemment, on cherche à forcer la main de quelque chose. Donc, Je répète, le paléolithique est une réalité avec un certain nombre de critères qui ne sont pas les mêmes du tout que ceux de la Renaissance et qui ne sont pas du tout que ceux de l'Anthropocène. Donc, que ce soit une période de l'histoire de l'humanité ou de l'histoire de la planète, etc., oui, il y a plein de critères chimiques surtout, mais de là à dire que c'est une ère géologique, c'est là où ça convient pas, parce que pour avoir des aires ou des étages ou des systèmes géologiques, il faut un certain nombre de critères qui sont multiples. Il y a des critères géologiques, des critères biostratigraphiques et d'autres types de critères plus physico-chimiques, comme les datations radioisotopiques, etc.
Qu'est-ce qui manque justement? Ouais, Patrick Devers, qu'est-ce qui manque justement à l'Anthropocène pour rentrer dans cette classification de l'ère géologique?
Mais par exemple, c'est défini sur des terrains, sur des sédiments ou des roches. Ben, par exemple, il n'y a pas la continuité sédimentaire, il n'y a pas les taux de sédimentation suffisamment importants, il n'y a pas de modification, il y a des modifications de faune, comme il y a d'autres types de critères chimiques. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas synchrones. Ils sont tous extrêmement précis, mais pas synchrones. Or, justement, pour qu'il y ait un nouvel système, une nouvelle subdivision géologique, il faut que ce soit global et synchrone. Par exemple, le paléolithique peut être marqué par une augmentation de gaz carbonique, du CO2. Sauf que cette augmentation de CO2 n'est pas apparue en même temps en Europe ou en Afrique, etc. Parce que cette augmentation de CO2 était liée au fait qu'on brûle du bois pour avoir des métaux. Mais selon les degrés de développement des civilisations, c'était pas synchrone, ça se passait pas exactement en même temps.
Et pour les défenseurs de l'Anthropocène, quels sont les autres marqueurs géologiques qui le caractérisent fortement?
Eh ben, on utilise beaucoup les marqueurs isotopiques, donc comme les modifications de carbone 14, avec par exemple avec les essais nucléaires. Mais alors là, les essais nucléaires, il faut-il prendre l'apparition, le développement du plutonium dans les sédiments lié aux explosions atomiques? Le problème, c'est que cette augmentation du plutonium est très progressive. C'est pas avec une explosion, on a eu un fort taux. Ça a été très progressif. Comment mettre une limite quand c'est très progressif? Donc, toujours pour le plutonium, certains défenseurs ont dit, ben, par contre, la chute de plutonium a été brutale. Donc, ça peut être un critère. Mais ce critère ne correspond pas aux critères que l'on peut utiliser pour le carbone 14, etc., etc. Vous voyez, il y a un ensemble de critères. Donc, je répète, oui, il y a des modifications profondes, brutales, sans doute durables, mais ce n'est pas d'ordre géologique.
Et ces modifications donc dues à l'humain, Patrick Devever, elles commencent quand alors? Elles commencent aux premiers essais nucléaires ou bien avant, à l'ère industrielle, voire bien avant encore?
Mais voilà, quels critères vous voulez dire? Certains disent c'est 1950. Parce que c'est l'augmentation d'utilisation, par exemple, la forte augmentation d'aluminium ou de nouveaux matériaux, béton, etc., ou de nouveaux polymères organiques, plastiques, ou l'augmentation des poudres de carbone dans l'air, ou la production de nouveaux minéraux. Mais ils reconnaissent que ça, on ne peut pas bien savoir parce que ce n'est pas reconnu par l'Association Minéralogique Internationale, ou etc. Donc les critères, les pic de la bombe, par exemple, c'est en 54, c'est entre 54 et 64 pour le carbone 14, c'est entre 1952 et 62 pour le plutonium, etc., etc. Il y a des modifications aussi avec le vivant, par exemple pour les vertébrés, il y en aurait à peu près 300 depuis 1500. Ah, ça y est, on n'est plus en 1900, on est en 1500. Le blanchiment des coraux peut être utilisé aussi, mais ça c'est encore une autre date.
On sent bien qu'il y a beaucoup de débats et beaucoup de points qui font débat, mais au final, qu'est-ce que c'est l'Anthropocène? Parce que c'est quand même la première fois qu'une espèce modifie durablement et sur des millions d'années son environnement.
Mais bien sûr, mais on ne nie pas la notion d'Anthropocène. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'Anthropocène concerne, c'est fait par les humains et c'est observé par les humains. Ça concerne l'histoire de l'humanité. Donc il est logique de dire l'Anthropocène s'inscrit, c'est pour ça que j'utilisais le mot exprès, paléolithique, renaissance, c'est tout un autre critère, mais c'est ça marque quelque chose dans l'humanité, donc on peut dire paléolithique, renaissance, anthropocène, mais il ne faut pas dire que c'est géologique.
Barbara Domenech, je sens que vous avez envie de réagir au propos de votre collègue du muséum.
Bonjour Patrick.
Bonjour Barbara.
Oui, je trouve ça c'est très précis et très didactique ce que tu as dit, mais je pense que la chose importante, c'est que quand même cette Anthropocène marque une étape dans l'évolution de notre planète, dans une période de la planète, comme tu viens de dire.
Donc à ce titre, elle mériterait de prendre ce nom.
Voilà, je pense que c'est un nom qui va être utile pour définir l'activité de l'homme et ses effets, les effets de ses activités sur la planète.
Oui, 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 mais tu as bien dit les activités de l'homme et l'influence de l'homme, etc., etc. Donc sur l'ensemble de la faune, mais ça fait partie de quelque chose de l'histoire de l'humanité.
Oui. Okay,
mais il ne faut pas dire que c'est géologique, c'est des phénomènes, en fait, c'est des phénomènes beaucoup plus profonds, à la fois plus profonds, plus lents, mais beaucoup plus... quand on change d'air, généralement, par exemple, il y a des modifications de faune, c'est 95% de la faune qui est modifiée, c'est des variations du niveau des mers qui font 100 mètres, 250 mètres,
ah,
etc.
Et on en a peut-être, oui.
On sent bien que le débat est plus idéologique que scientifique, finalement, maintenant.
Et on sent surtout que vous n'êtes pas sorti de l'auberge, Patrick de Vever, hein, en Afrique du Sud, là où vous vous trouvez en ce moment pour discuter justement de l'entrée ou non de l'anthropocène.
Non, mais en fait, la science, c'est ça, c'est le débat.
Ah, oui. Ah ben donc, ça, vous débattez bien.
L'anthropocène, oui, c'est une notion qui doit être prise en compte, oui. Mais il ne faut pas faire un amalgame trop rapide en disant que c'est une ère géologique.
Bien, bah écoutez, on va suivre la suite des discussions en tous les cas. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps au cœur de ces débats, donc depuis le Cap en Afrique du Sud. Merci Patrick de Vever.
Je vous en prie.
Axel, à demain pour une nouvelle
lune.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, il y a 800 millions d'années, l'atmosphère était plus riche en oxygène que prévu. Une équipe internationale de chercheurs, dont le Lyonnais Christophe Lécuyer, a pu mesurer pour la première fois la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre il y a environ 815 millions d'années. Ils ont analysé les concentrations en dioxygène, en diazote et argon, préservés dans des fragments de pierre de sel, appelés aussi halite, trouvés en Australie. Et le résultat est surprenant, puisque les échantillons contiennent 10,9% d'oxygène, soit 5 fois plus que ce qui est habituellement estimé pour l'atmosphère de cette époque. L'oxygène était donc déjà présent en quantité importante dans l'atmosphère et donc dans l'océan, bien avant la date admise de l'explosion de la vie pluricellulaire. L'Australopithèque Lucy est-elle morte il y a 3 millions d'années en se cassant la figure d'un arbre? Eh bien, des scientifiques américains ont remarqué que ses os du bras étaient cassés de façon inhabituelle pour un fossile. Elle aurait chuté d'une dizaine de mètres et étendu le bras pour essayer d'amortir sa chute, explique John Kappelman, le principal auteur de cette étude, publiée aujourd'hui, mais qui ne fait pas l'unanimité. En Alaska, le saumon est au menu depuis 11 800 ans. Les scientifiques ont pu reconstituer leur régime alimentaire en utilisant l'une des rares traces de leur présence, leur foyer de cuisson. Grâce à l'étude isotopique d'une vingtaine de ces foyers, ils ont mis en évidence des valeurs élevées d'azote à partir de moins 11 800 ans, soulignant la consommation importante de poissons de mer, alors même que les foyers de cuisson se trouvaient loin de la mer. Il s'agissait donc très probablement de saumons qui remontaient les rivières pour se reproduire chaque année. Et puis pour terminer, notez sur vos tablettes, samedi prochain, samedi 3 septembre, le Théâtre de l'Odéon à Paris organise le nouveau colloque S3 Odéon dédié à la médecine de demain, un cycle de conférences qui invite les professionnels de la médecine pour une réflexion avec le public sur les défis de la santé de demain. Vous pouvez réserver vos places en allant sur le site s3odéon.fr, il est en lien sur la tête au carré. Allez, la pollution et ses dommages sur notre cerveau, c'est le dossier dans un instant.
Money, the root of your mama house. my nigga to mama, she gave her her future spouse. I know I do the things that I do when your mama blown. Calling the baby daddy and daddy ain't round enough. I'm watching my baby grow up alone in her mama house. Just too busy writing these rhymes, I'm never lying in rhymes. I'm rhyming harder and harder while flipping niggas for times. Ain't she better than my exes? Pistol flipping, clean talking, love making heaven. Still be acting up and hope that I make it to heaven. Seven matches, seven, and my mama came a reverend. And my mama house a sanctuary. I got new goals, got new wishes. Be a better father, start calling my women bitches. Red, gold, green, gold, gang, do it right. And we never do it wrong, praying that we see every day. Hey.
This is the time for me to live alone. Face the world, do not do
Canada Together sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Barbara Domenech, vous êtes biologiste, spécialiste des hormones, professeure au Muséum, directrice d'un département régulation, développement et diversité moléculaire. Et vous avez publié juste avant l'été Le cerveau endommagé, comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale chez Odile Jacob. Titre on ne peut plus clair, notre cerveau, le siège de notre pensée, est en train de subir les effets délétères des pollutions chimiques.
Je suis pas la seule à le dire, heureusement. Heureusement, je suis pas la seule parce que sinon, oui. Effectivement, j'aurais très peu de poids.
On pourrait douter de votre parole.
Voilà,
ouais.
Tout à fait. Mais effectivement, c'est un message qui est un peu inquiétant quand on considère que le cerveau est quand même la structure le plus compliquée, le plus que l'évolution a fait, que quand on voit qu'il est en train d'être dégradé
très vite.
Baisse pour certaines, oui. Ouais. Certains auteurs considèrent que la baisse du QI est en train de baisser à une vitesse qui pourrait être de plusieurs points de QI par décade, par décennie. Et en même temps, comme j'ai dit en introduction, cette augmentation de maladies neurodéveloppementales telles les troubles du spectre autistique ou le déficit d'attention, la dyslexie même, on pourrait commencer à s'inquiéter de tout enfant qui a un retard scolaire pourrait être... Chaque chose est évidemment, c'est des choses multifactorielles, il y a plusieurs facteurs dans l'environnement qui peuvent changer, mais... La pollution chimique, c'est certainement pas une bonne chose.
Le poids de ce qu'on appelle le facteur environnemental. Hein,
tout à
au
fait,
fond.
Dans lequel il y a beaucoup de facteurs. Je viens de parler effectivement ça pourrait être, on va en parler tout à l'heure avec la question de l'auditeur, sur la manière dont l'enfant est entouré en ce moment. Mais pour moi, un des plus grands problèmes, c'est que l'enfant est contaminé, on peut le dire, exposé à des produits chimiques dès sa conception.
Oui.
Le liquide amniotique humain est déjà contaminé par des dizaines de substances chimiques.
Oui. Ça, l'effet sur le fœtus, c'est vraiment une découverte récente.
Mais disons que, voilà, c'est quelque chose où on est à la frontière de nos connaissances dans plusieurs aspects. On vient d'apprendre de l'importance. Vous savez que mon sujet particulier, c'est l'hormone thyroïdienne. Alors, sans un minimum d'hormone thyroïdienne au bon moment...
On va l'expliquer tout à l'heure, on y reviendra abondamment. Ouais.
Mais on vient d'apprendre de l'importance de l'hormone thyroïdienne pour le développement très précoce du cerveau. Et ça, on l'ignorait avant. On savait depuis un siècle qu'on avait besoin d'hormone thyroïdienne pour faire un cerveau. correct. Mais cette idée que cette fenêtre des premiers trois mois de grossesse, c'est absolument nouveau.
Ouais, donc ce qui se passe dans le ventre de la mère et ce critique. Que la mère respire ou les objets avec lesquels elle vit au quotidien sont absolument prépondérants
absolument
pour le développement de l'enfant.
Tout à fait.
Ouais.
Je ne veux pas en faire trop peur aux auditrices ou auditeurs parce que effectivement, il y a des choses, comme j'ai dit, que l'individu peut faire pour limiter son exposition et il y a aussi des choses à faire au niveau de la législation.
Ouais.
Mais cependant, il faut vraiment prendre conscience de ces premiers mois de grossesse comme étant une période extrêmement critique, une période, une fenêtre de vulnérabilité.
Ouais. Donc on voit bien les enjeux de santé publique.
Tout hein, à fait.
Les enjeux pour la société, parce que ce sont aussi des coûts économiques qui sont énormissimes. On ne réalise pas, mais la baisse du QI, ça entraîne aussi des dépenses supplémentaires absolument énormes pour la société.
Hein. On peut le chiffrer de différentes manières. Nous, moi, j'ai participé à une étude où on a chiffré juste trois substances qui affecte la signalisation par les hormones thyroïdiennes. Et le chiffre en termes de baisse de QI et augmentation de ces maladies neurodéveloppementales était 150 milliards d'euros
par an,
l'Europe.
Hein. Ouais.
Et d'autres gens le chiffrent d'une autre manière, par exemple le coût de scolariser un enfant qui a quelques problèmes d'apprentissage, c'est le double pour un enfant qui est normal.
Ouais. Barbara Domenech, les perturbateurs endocriniens, ce sont les ennemis publics numéro un, justement, au cœur de ces questions.
Entre ça et le réchauffement climatique, je me demande lequel est le plus inquiétant. Pour moi, surtout sur l'effet de le fœtus et son cerveau, et étant donné que, comme on vient de dire, que c'est le cerveau humain qui nous caractérise. Et bon, évidemment, le réchauffement climatique va affecter aussi la biodiversité. Il ne faut pas oublier que ces perturbateurs endocriniens affectent aussi la biodiversité. Donc, les deux vont main en main.
Oui.
Parce que brûler du charbon, brûler du pétrole, c'est produire des choses qui vont interférer avec le développement du cerveau et évidemment contribuer au réchauffement climatique.
On va écouter la voix d'un chercheur qui s'appelle James Flynn, qui est toujours en vie d'ailleurs, et qui s'est beaucoup intéressé à l'augmentation du quotient intellectuel. On va écouter ce qu'il nous raconte.
L'effet Flynn, c'est la découverte que pour toutes les nations qui sont entrées dans l'ère industrielle, il y a eu des gains importants dans les tests de QI. J'ai regardé tous les types de tests de QI dans 40 pays, comme en France, en Hollande, en Norvège, partout où il y avait des appelés au service militaire. On leur donnait exactement le même test chaque année. Et les gains sont évidents. Il y a une ou deux générations, les gens avaient en moyenne 30 réponses justes sur 60, alors qu'aujourd'hui, ils en ont 45.
Après avoir passé au crible des dizaines et des dizaines d'études, James Flynn a montré que depuis plus de 60 ans, nous réussissons mieux les tests de QI. Est-ce que cela signifie que nous serions devenus plus intelligents que nos grands-parents ?
Alors, Barbara Domenech, il faut voir les choses autrement. Est-ce que cet effet Flynn, justement, aurait une fin aujourd'hui avec un processus qui serait, à l'inverse, en baisse ?
Oui, même Flynn, il le reconnaît. Parce qu'en plus, on n'est pas plus intelligent que nos grands-parents, ça c'est clair. Et il souligne ça dans 5 paradoxes de ses observations. En plus, quand on regarde là où il y a encore du service militaire tel qu'en Finlande, qui a un excellent système d'éducation, on remarque qu'ils ont perdu 2 points de QI dans les dernières décennies. Donc, vraiment, et Flynn est tout à fait d'accord que cet effet d'augmentation qui était dû à la manière dont on faisait des tests, principalement, non seulement ça a atteint un plateau, mais depuis 90, c'est en baisse.
Ouais, et alors donc, vous faites le lien direct entre la baisse du QI et les perturbateurs endocriniens, donc la pollution chimique en général ?
Moi, je pense oui, parce que je ne dis pas qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs, mais qu'il y a une contribution de la perturbation endocrinienne, pour moi, il y a très peu de doutes.
Alors justement, Larry sur Twitter nous dit ceci, ce qui va être dit sur la pollution chimique, est-ce que ça ne serait pas également vrai pour la pollution sonore, pour la pollution visuelle, pour la pollution olfactive ?
Ben, effectivement,
tout ce qui constitue notre environnement, effectivement.
Tout à fait. la pollution olfactive, commençons par là, c'est vrai qu'il y a énormément de produits chimiques dans les parfums, dans les produits de maison, qui vont avoir un effet de perturbation du crânien. Dans les bruits qui vont atteindre l'oreille interne, c'est aussi très sensible aux produits, aux pollutions chimiques. Donc, si on ajoute les gens qui écoutent les casques trop élevés à l'adolescence et l'exposition aux produits chimiques, on a un double effet.
Le recours aux écrans, par exemple, puisqu'on parle de la baisse du QI, est-ce que ce ne serait pas là aussi un critère
qui
pourrait
jouer ? On a du mal. C'est très mal documenté. Il y a des gens qui disent que ça a une baisse de mémoire parce qu'on fait trop souvent...
On sollicite moins, justement.
On sollicite moins. D'autres gens qui vont dire que ce n'est pas le cas parce qu'on est plus rapide. Mais ça, il faut plus d'études pour ça. Mais je pense que quand même, on ne consulte pas une tablette quand on est in utero.
Et là, quand on est dans le ventre de sa mère.
Voilà,
oui, c'est ça.
Quand on est dans le ventre de sa mère. Et c'est là où il y a quand même une présence des produits chimiques. Et c'est là, comme on vient de dire, qui est important pour la mise en place de ce cerveau.
Le cerveau endommagé, c'est chez Odile Jacob, Barbara Domenech. Vous restez avec nous, vous êtes l'invité de La Tête au Carré avec les messages pour vous. La Tête au Carré at radiofrance.com.
Premier jour de printemps, alignons le désert, faisons le point sur nos révélations. Déjà les choses t'échappent, dans le départ est proche. Autour de toi s'écroule ce que tu croyais là. Solarium, immobile en surface. Voyage au bout du monde, le moindre bruit s'efface, dans l'étendue est vaste, et n'être plus qu'une ombre, la menace d'un vestige, autour de toi s'écroule, ce que tu croyais là. Solarium, et là tu sens, c'est là, chaleur qui te prend, et là tu sens, c'est là, hauteur qui te prend. C'est l'heure où l'on se presse pour rassembler nos fièvres, les porter à nos lèvres en un souffle premier. Le son et la lumière s'imposent à ton éveil. Là, quelque chose existe, là, quelque chose existe. Est-ce le vide qui s'avance ou l'instant qui nous guide? Là, quelque chose existe, là, quelque chose existe. Nos absences. Solarium, c'est l'heure où l'on se presse pour rassembler nos fièvres, les porter à nos lèvres en un souffle premier, fondu à la lumière, en ordre après la fuite. Ces rives vont rêver une essence qui se cachait là. Quelque chose existe là, quelque chose existe là, quelque chose existe là, quelque chose existe, quelque chose existe là, quelque chose existe, quelque chose existe, quelque chose existe là, quelque chose existe, quelque chose existe, quelque chose existe. Premier jour de printemps, alignons les déserts, faisons le point sur nos révélations.
Solarium avec Radio Elvis.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences, sur France Inter.
Barbara Domenex, le cerveau endommagé chez Odile Jacob dans la collection Science, avec donc ces travaux que vous menez et qui montrent clairement le rôle des perturbateurs endocriniens sur à la fois la baisse du QI et puis également le développement des troubles neurodéveloppementaux. Il y en a beaucoup. Vous évoquez l'autisme, par exemple, dans ce livre. Là, il y a un lien direct qu'on peut faire justement entre la pollution chimique et l'autisme.
Ben, on peut faire le lien direct entre les taux d'hormones thyroïdiennes chez la maman et le risque augmenté d'autisme, de même pour le déficit d'attention. Et c'est vrai que il y a aussi quelques travaux qui ont été faits sur l'exposition à certains produits chimiques et le risque augmenté d'autisme.
Oui, il y a une explosion des troubles. Hein. Aux États-Unis, il y a des chiffres très précis là-dessus qui sont hallucinants quand même.
Oui, en ce moment, on est à un enfant sur 68 et un garçon sur 45. Ça veut dire qu'on dépasse les 2% des garçons.
Hein. Pour les troubles autistiques
Pour les troubles autistiques. Et on est à 10% pour les maladies du type déficit d'attention.
Ça, c'est pour les États-Unis. Les chiffres sont les mêmes en France ou pas?
On a beaucoup de mal à avoir les chiffres exacts pour la France, mais on pense être dans l'ordre de 1% pour la France aussi, en autisme. Et sans doute, pas loin de ces 8, 9, 10% pour les troubles de déficit d'attention.
Julie nous écoute, elle est enceinte. Elle est mal tombée sur l'émission aujourd'hui.
Oui, on espère qu'on
ne va pas trop l'affoler. Elle demande quand même comment on peut faire pour protéger au mieux le fœtus. Bah,
la première chose que moi je recommande, c'est quand même de prendre des cachets de minéraux et des vitamines qui contiennent de l'iode. 150 microgrammes d'iode par jour. Mmh. On va me demander pourquoi. Parce que l'iode est nécessaire pour faire de l'hormone thyroïdienne. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui rentrent en grossesse sans assez d'iode. Et donc, ça veut dire qu'elles-mêmes, elles ne sont pas assez protégées contre ces polluants. Si on a assez d'hormones thyroïdiennes, nous pensons qu'on peut déjà faire un peu mieux face à ça. Ensuite, on peut évidemment choisir de ne pas trop mettre de crème solaire. C'est difficile aujourd'hui. Il faut mettre un chapeau, il faut mettre une chemise à manches longues. Il faut utiliser le minimum de cosmétiques parce qu'il y a évidemment des phtalates, il y a des triclosanes, il y a des bactériocides dans les cosmétiques. Il faut essayer de manger bio. Je sais que ça coûte plus cher, mais on va peut-être gaspiller un peu moins. Mais c'est clairement démontré que quand on mange bio, on baisse très rapidement la quantité de pesticides dans le corps. On va essayer de ne pas trop utiliser de produits de ménage. C'est surtout sur les femmes que ça touche, évidemment, qui contiennent des perturbateurs endocriniens tels, en cours, je vais parler du triclosane, qui est un biocide qui va se trouver dans des choses où il n'y a pas vraiment besoin que ça soit présent, comme les solutions pour nettoyer la cuisine. Donc, il faut penser à tout ça. Évidemment, ne pas boire de l'eau en bouteille trop souvent, surtout si c'est resté au soleil. Il faut essayer d'utiliser l'eau du robinet. C'est quand même mieux pour la santé.
Ouais, alors on va voir dans l'extrait qu'on va entendre d'un documentaire diffusé sur Arte en 2010 que même les produits bio ne sont pas épargnés par la présence, par exemple, de phtalates.
Nous avons décelé des taux importants de phtalates dans ce genre de sauce au pistou ou asiatique, qui sont très grasses. Dans les petits pains aussi, que l'on mange avec des pâtes à tartiner à la noisette, comme celle-ci par exemple. On en a aussi trouvé dans les bonbons comme les nounours ou les bouteilles de Coca-Cola. Et également dans le lait, y compris le lait bio. Et nous sommes d'avis que ces phtalates ont migré à chaque fois de l'emballage dans le produit.
Voilà, Barbara Domenex, difficile de passer entre les goûts de la toxicité, là, quand même.
Ah oui, ben les emballages, c'est effectivement un grand problème. Essayer de manger le frais et préparer des choses à la maison. Je sais qu'encore, ça va prendre du temps, mais c'est vraiment gagnant pour tout le monde.
Ludovic demande, est-ce que les dégâts sur le cerveau sont réversibles ou non? Alors, parce que vous parlez de l'importance de la formation du cerveau dès le plus jeune âge, dès le fœtus, après avec ce processus de formation du cerveau, avec quand même une plasticité du cerveau.
Il y a une plasticité.
Et une fabrication de neurones à tout âge de la vie, non?
Tout à fait.
On l'a dit souvent à ce micro.
Oui, oui, moi je travaille sur la neurogenèse à l'âge adulte, mais c'est très limité. Si le cerveau de base n'est pas construit correctement, ben on peut ajouter quelques neurones ici là, ça va, et ouais. on peut ajouter quelques synapses ici là.
Ça suffira pas.
Ça suffira jamais. Ouais. Je pense que le plus simple, c'est de, et c'est le plus juste de dire que le développement du cerveau, c'est comme une route à sens unique. Et on peut l'améliorer un petit peu, de temps en temps, on peut ouvrir un peu la route, mais mm-hmm. on ne va jamais refaire la route.
Ouais. Alors, on a aussi l'expérience du passé avec des toxiques très connus comme le plomb, par exemple.
Ah, oui, tout à fait.
Quelles sont les conclusions par rapport justement à des sociétés, depuis très longtemps, hein, pendant la Rome antique, on connaissait déjà les effets délétères du plomb sur les capacités intellectuelles. Et puis, depuis quand même quelques décennies, le fait qu'on n'utilise plus le plomb,
oui,
on voit les changements notables
oui.
quand même.
Ah oui, on voit des changements notables. Aux États-Unis, on a légiféré contre le plomb dans l'essence dans les années 70. En Europe et en Chine, on a attendu mm-hmm. jusqu'à l'an 2000, même année. Mais aux États-Unis, comme ils nous ont précédé, on a vu une baisse de la criminalité, on a vu une baisse de problèmes avec des jeunes dans les centres-villes.
Mais
bon,
y a un
c'est
lien.
Une association.
Oui, c'est une drôle d'association,
ben,
ça. Quel est le lien entre le plomb et la criminalité? Alors d'ailleurs, il y a une question d'André qui nous dit, est-ce qu'on peut faire un lien entre la prolifération des perturbateurs endocriniens et la multiplication des passages à l'acte terroriste?
C'est une drôle de question, mais si on reste au plomb, je ne vais pas la criminalité qu'on a pu observer aux États-Unis.
Ouais.
Il est certain qu'un enfant qui habitait dans le centre-ville de Détroit dans les années 70, qui était exposé au plomb, mm-hmm. avait moins de possibilités. Il avait moins de QI qu'un enfant qui n'était pas en centre-ville. Ça, c'est clair. Avec ça, s'il a d'autres problèmes, il y aurait plus de risques d'échecs scolaires, il y aurait plus de risques de tomber dans, disons, si on a un échec scolaire, on pourrait avoir une prédisposition à être dans une situation où on ne peut pas gagner assez bien sa vie, etc. Donc, ces gens-là, c'est Mielke et ses collaborateurs aux États-Unis qui postulent qu'il y a effectivement un lien entre la baisse du plomb et la baisse de criminalité.
Ouais. On reste prudent sur ces conclusions.
Moi, je reste très prudent sur ces ouais. conclusions, mais il est clair que il y a la baisse de QI va augmenter les problèmes de scolarité. Et après ça, évidemment, c'est pas moi qui va rentrer en jeu pour dire qu'est-ce qui pourrait être les conséquences, c'est d'autres gens.
Ouais. Le réchauffement climatique, d'ailleurs, lui aussi, donne des informations parfois très étonnantes hein,
oui.
sur la façon dont les sociétés aussi sont impactées.
Oui, ouais, là, c'est beaucoup plus net, l'effet des changements climatiques et le lien avec le terrorisme. Je cite un article de Naomi Klein, qui a écrit le livre « Ceci change tout », qui démontre qu'il faut, insiste sur le fait que la guerre civile en Syrie a été précédée par 4 années de sécheresse avec 1,5 million de personnes déplacées des zones rurales vers des villes. Et ça c'est clair, ça va faire un stress sur le tissage des structures sociales qui va évidemment être un facteur qui pourrait rentrer en jeu.
Le rôle central de la thyroïde dans le développement du cerveau. Alors ça, il faut y revenir, Barbara Domenech, ça c'est évidemment votre sujet de recherche. Le fœtus est particulièrement vulnérable justement face à la pollution chimique dans ces périodes de croissance et justement le rôle de la thyroïde alors, dans tout ça.
Ah ben... Comme on sait depuis un siècle que sans hormone thyroïdienne, un enfant devient crétin, mais à l'époque, on était en train de regarder la période postnatale.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que chaque enfant est testé dès sa naissance pour savoir s'il a assez d'hormone thyroïdienne. C'est le seul hormone pour lequel on fait un test à la naissance pour savoir si les niveaux sont bons. Maintenant, on sait que c'est les 3 mois premier mois de grossesse qui sont aussi importants et les taux d'hormones thyroïdiennes chez la maman sont critiques. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et quand on met ça ensemble, ces résultats-là, avec les résultats sur la contamination chimique dans le liquide amniotique, c'est ouais. là où, moi, je dis, on a un grave problème.
Alors, donc, les perturbations, c'est-à-dire les polluants, agissent sur les hormones thyroïdiennes.
Et
quel est le rôle, justement, de ces hormones thyroïdiennes sur le cerveau, pour qu'on comprenne bien hein, tout le cycle.
Les hormones voilà. Bon, ça fait 40 ans que je travaille sur les hormones thyroïdiennes et le développement du cerveau, donc ça va être un raccourci. Disons que, quand on a l'évolution des vertébrés, se fait en même temps que l'apparition de la glande thyroïde. Donc, chez des requins, c'est les premiers à avoir un glande thyroïde et avoir un cerveau un peu...
Les requins, ce sont les premiers.
Oui, les premiers. Y a la lamproie, mais on va... Peut-être c'est un peu compliqué parce que la lamproie, c'est après la métamorphose du lamproie, il a une glande thyroïde correcte. Mais disons que les requins, les poissons cartilagineux sont les premiers. Et c'est intéressant parce que c'est, en même temps, il va avoir un système nerveux qui va être fait pour attraper du poids. Ils vont bouger plus vite, ils vont voir le proie et donc tout est mieux coordonné avec le système nerveux. Et au fur et à mesure qu'il y a eu évolution des vertébrés, les hormones thyroïdiennes sont rentrées en jeu pour moduler plein de processus dans la construction du cerveau. Jusqu'à l'être humain, où on a effectivement le cerveau le plus évolué, le plus poussé en termes de sophistication. Eh bien, les hormones thyroïdiennes, ils modulent chacun de ces processus.
Pour faire en sorte qu'on ait un cerveau en bonne qualité.
Et oui, ouais. La naissance des neurones, les migrations des neurones, la différenciation des neurones, la formation des synapses, tout ça va être modulé par les hormones thyroïdiennes. On a toujours un cerveau, même quand on est crétin, mais on a un QI d'à peu près 35. Mais on a des neurones, on a des cellules gliales, mais c'est pas terrible comme cerveau. Alors, tout ce processus, c'est 450 millions d'années qu'il a fallu pour évoluer ce cerveau des primates et jusque les êtres humains, est modifié par les hormones thyroïdiennes. Et tellement de produits dans l'environnement vont interférer avec ces actions pour plusieurs raisons, mais à tout niveau de la production et la distribution. Et
produire ces effets délétères, donc.
Interférer avec l'action des hormones thyroïdiennes.
Allez, Barbara Domenech, beaucoup de questions pour vous sur la tête au carré à radiofrance.com. Je vous les transmets dans un instant après l'amitié de Françoise Hardy. Ah.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors, peut-être, je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton
La voix de Françoise Hardy sur France Inter. Barbara Domenech, le cerveau endommagé, comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale. Pour ceux qui n'ont pas eu la joie de lire ce livre sur la plage cet été, eh bien nous y revenons. Cette rentrée, c'est chez Odile Jacob. On parlait du rôle central de la thyroïde dans le développement du cerveau. Vous êtes beaucoup intéressé, vous vous intéressez beaucoup au têtard fluorescent. Votre petite technique à vous.
Ah, mais par laquelle je suis rentré dans le problème de la perturbation endocrinienne. Hein.
Et pour laquelle, d'ailleurs, vous avez reçu des prix, vous avez été récompensé pour ces innovations. Les têtards, c'est intéressant d'utiliser cet animal pour voir comment ça fonctionne, ouais. Mais on peut faire un parallèle avec l'humain ?
Absolument, parce que l'hormone thyroïdienne n'a pas changé depuis l'évolution des vertébrés. C'est la même molécule chez les poissons, chez les amphibiens, chez les oiseaux et chez l'être humain. Et donc, quelque chose qui va interférer avec la métamorphose d'un têtard pour l'empêcher de devenir une grenouille, ça va aussi avoir un effet délétère sur la croissance de notre cerveau.
Alors concrètement, pour expliquer aux auditeurs, donc vous avez un têtard et face à des produits chimiques, vous arrivez à tracer, en fait, avec la fluorescence, justement, dont ces produits agissent sur le cerveau de l'animal.
Oui, on insère un gène fluorescent, un gène qui code pour une protéine fluorescente dans le têtard. Et en fonction de la quantité de polluants dans l'environnement, ça va fluorescer plus ou ça fluoresce moins. Et s'il y a plus ou moins, dans les deux cas, il pourrait y avoir problème.
Donc la démonstration, elle est implacable, là, puisqu'on l'a vraiment sous les yeux.
Absolument.
Ouais. On peut le faire chez l'humain ou pas, ça?
Non.
On peut pas mettre un peu de fluo dans le cerveau de l'humain? Ce serait très pratique pourtant.
Oui, ce serait pratique. On a souvent pensé à mettre des têtards fluorescents ou quelque chose d'équivalent dans les aquariums pour que justement les gens puissent voir chez eux s'ils avaient des problèmes Mais c'est pas très pratique comme idée.
Pierre nous écrit ce message. Je vous rappelle que l'allaitement maternel apporte des acides gras essentiels, des hormones thyroïdiennes qui tous deux favorisent le développement des neurones et protègent en partie contre les polluants qui sont stockés chez la mère plutôt que transmis par le lait. C'est toujours mieux quand on peut allaiter.
Absolument, je suis
toutes
tout à fait d'accord.
Toutes les femmes ne peuvent pas, mais c'est
mais si on peut, il vaut mieux à condition que la mère ne soit pas déficiente en iode encore. Parce que si on est déficiente en iode, parce que l'enfant va dépendre de l'iode de la mère pour faire son propre hormone thyroïdienne. Donc, mais dans le cas où la mère prend ses 150 microgrammes d'iode par jour, évidemment, c'est nettement mieux parce que, oui, tous les études le montrent.
Oui. Georges demande où en est la suspicion d'atteinte cérébrale par le mercure.
Ah,
certains vont penser à la question des amalgames dentaires, mais pas seulement. Hein.
Non. Chaque fois qu'on brûle du charbon, et là, on est de nouveau sur le terrain du réchauffement climatique, mais quand on produit du mercure en brûlant du charbon, c'est aussi c'est ça qui va aller dans les lacs et contaminer les poissons qu'on va manger. Mais le mercure, c'est intéressant parce que ça fait une chélation avec le sélénium qu'on a aussi besoin pour activer nos hormones thyroïdiennes. Et donc, le mercure, c'est un lien direct avec les hormones thyroïdiennes encore. Et peu de gens le savent. Et le sélénium, on a besoin du sélénium et d'iode tous les jours pour avoir suffisamment de bonnes hormones thyroïdiennes.
Ouais, on parle souvent des poissons aussi, de la consommation de poissons. Là aussi exposé au mercure.
Oui, mais justement, comme ces poissons, souvent des poissons de mer, vont contenir beaucoup de sélénium en même temps qu'ils contiennent de l'iode. Ouais. Donc, en général, si on n'en mange pas trop, il y a un bénéfice net de manger du poisson plutôt que de ne pas en manger.
Julien demande quel serait finalement l'environnement quotidien idéal pour prévenir ces dommages sur le cerveau. Alors vous avez évoqué la nourriture bien sûr tout à l'heure, mais on va où là sur notre planète pour être protégé au mieux ?
En termes de nourriture, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette phrase un peu simple, mais qui disent il faut pas manger ce que on pense que notre grand-mère n'aurait pas mangé, c'est-à-dire donc on prépare tout ce qu'on peut, etc. Mais c'est difficile parce que habiter à la campagne, c'est les pesticides, habiter en ville, c'est la pollution atmosphérique. Il n'y a pas de solution. Il faut vraiment essayer de manger bio, il faut essayer de limiter des choses que j'ai déjà dit et pousser nos responsables politiques à légiférer.
Alors justement, écoutons la voix de Ségolène Royal, c'était en juin dernier, juste avant l'été, sur la ratification de l'accord de Paris autour des perturbateurs endocriniens. Elle était interrogée sur cette question.
Vous avez demandé, je crois, l'inscription du point perturbateur endocrinien.
Oui.
Je voulais savoir, je sais que la France souhaitait que la Commission s'appuie sur la définition de l'OMS. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de la définition de l'OMS telle que...
La définition de l'OMS va dans la bonne direction. Donc, j'ai écrit à la présidente de la Commission européenne pour faire en sorte que la définition soit considérablement améliorée. Aujourd'hui, elle n'est absolument pas suffisante. Et par conséquent, j'ai fait des propositions très concrètes pour que ce processus, là aussi, s'améliore.
Barbara Domenech, en juin dernier, justement, la Commission européenne a publié une proposition de définition des perturbateurs endocriniens, après 2 ans de retard, hein, quand même. Mmh. Les critères retenus sont en deçà.
Hein. Ils ne sont pas satisfaisants. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec Madame Royal qu'on peut faire mieux et je pense qu'il faut faire mieux. Et les définitions ils vont trop dans le sens de ce que veut l'industrie chimique.
Oui, c'est ça. C'est la pression des lobbies encore, selon vous ?
Ah oui, et pas que selon moi encore. Stéphane Aurel a fait un magnifique travail sur ces questions.
C'est un journaliste.
Hein. Oui, c'est Stéphane Aurel, journaliste, qui travaille aussi pour Le Monde. Et donc, elle a fait plusieurs articles pour démontrer le nombre de conflits d'intérêts qu'il y avait les signataires de ces articles.
La définition de l'OMS était plus acceptable?
Ah, tout à fait, oui. C'était clair et net. Et là, la manière dont l'Europe a défini les critères, on va attendre qu'il y ait des effets sur les populations humaines avant d'agir. Oui. Il faut déjà prendre en compte les études toxicologiques.
Vous avez vu la une du magazine Que Choisir, Barbara Domenech?
Ah, oui.
Du poison dans nos cartables. En cette rentrée, évidemment, le titre choque dans son numéro
difficile.
De septembre.
Difficile.
Le magazine qui pointe du doigt, justement, les poisons dans les cartables. 52 articles analysés, seulement 19 sont indemnes de toute substance chimique. Et ça va vraiment de la gomme au crayon, la trousse, tout y passe. Hein.
Ah oui, c'est assez effrayant, nous sommes d'accord.
Comment faire à l'école pour protéger nos enfants, justement, demande Karine, de ces perturbateurs. Est-ce qu'il y a des groupes de pression positive auprès du ministère de l'Éducation nationale pour justement que ça rentre dans les programmes, pour faire de la prévention, le menu des cantines?
Ah, les menus des cantines, ça c'est clair qu'on peut faire des choses beaucoup plus facilement qu'on peut faire que sur l'environnement direct de l'enfant dans sa classe, mais qui va être vraiment difficile. Et à ma connaissance, je connais des groupes dans différentes régions de France qui m'ont demandé de les aider à voir comment on peut diminuer cette exposition, mais c'est vrai que c'est difficile.
Bien, combat sociétal, sanitaire et politique.
Hein. Tout à fait.
On l'a compris. Et puis surtout scientifique pour les chercheurs qui, comme vous, travaillent d'arrache-pied pour comprendre ces mécanismes et nous mettre en garde. Parce qu'on a besoin aussi de lanceurs d'alerte comme vous.
Ouais. Et je ne me considère pas comme un lanceur d'alerte. Je me considère comme quelqu'un qui a travaillé sur le sujet pendant un certain temps, qui voit maintenant ses résultats et ça m'inquiète.
Barbara Domenech, ce livre, Le cerveau endommagé, est paru chez Odile Jacob. Comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Et il est de retour, tout bronzé, en pleine forme, Pierre Barthélémy. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et vous nous parlez d'anatomie pour cette première chronique de rentrée.
Oui Mathieu, comme vous avez pu le voir cet été sur la plage, l'enveloppe humaine fait preuve d'une magnifique symétrie. Ce n'est pas pour rien qu'Homo sapiens appartient au sous-règne des bilatériens. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, 2 bras, 2 jambes, 2 clavicules, 2 omoplates, 2 douzaines de côtes, 2 poumons, 2 tétons et bien sûr, le plus important de tout pour la perpétuation de l'espèce, 2 testicules. Mais contrairement à ce que les planches anatomiques peuvent laisser penser, les fabriques de les spermatozoïdes ne sont pas parfaitement symétriques. Bien souvent, une valseuse danse plus haut que l'autre ou est plus grosse que l'autre. Vous vérifierez plus tard, Mathieu. En attendant, croyez-moi sur parole.
Dès la sortie de ce studio, d'ailleurs.
Je ne fais que répéter un fait connu au moins depuis l'Antiquité.
C'est vraiment documenté tout ça, Pierre Barthélémy, s'il vous plaît.
Mais oui, tenez, en 1764, dans son histoire de l'art de l'Antiquité, l'historien allemand Johann Winckelmann écrivait, je cite, « Les parties naturelles ont aussi leur beauté particulière dans les figures antiques. Parmi les testicules, le gauche est toujours plus gros que le droit, ainsi qu'on l'a remarqué dans la nature. » Alors, dans une mémorable étude publiée par Nature en 1976 et qui fait et qui fête ses 40 ans, le médecin britannique Chris McManus s'est proposé d'aller vérifier cette affirmation. On imagine la conversation. Chérie, nous partons en voyage en Italie. Oh, excellente idée, darling. Que veux-tu y faire? Mesurer des testicules sur des statues.
Voilà, et il l'a fait,
notre ami. Il l'a fait. Ce chercheur a réellement écumé des musées italiens pour reluquer le scrotum de 107 statues. Il a ainsi pu confirmer que les sculpteurs de l'Antiquité plaçaient le testicule droit plus haut.
Ah, quand même.
Et ouais. Comme l'avait noté Winkelmann, qu'il taillait le gauche plus bas et plus gros. Alors tout ça semble logique, puisque le plus bas doit a priori être aussi le plus lourd.
Oui.
Mais comme l'explique Chris Bowles McManus, l'anatomie fait parfois des entorses avec la logique. Et il cite à cet effet une étude hongkongaise publiée en 1960. Ces chercheurs ont examiné près de 500 hommes vivants pour s'apercevoir que chez les droitiers, le testicule de droite était 2 fois sur 3 plus haut que celui de gauche, et c'était l'inverse chez les gauchers. Ils ont utilisé 100 hommes morts pour peser la chose et s'apercevoir que le bibelot le plus haut était aussi le plus lourd.
Quel travail!
Alors, il est donc probable que la latéralisation produise une musculature asymétrique qui joue sur la position des génitoires. Conclusion, et ce sera la phrase du jour, les bourses ne se comportent pas comme des sacs de patates, mais comme des montgolfières. La plus gonflée et la plus haute.
Et on retrouve cette chronique couillue dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui, Pierre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en supplément?
Cette semaine, le grand dossier est consacré aux mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules, et à ce qui se passe lorsque ces usines tombent en panne suite à une anomalie génétique.
Et c'est donc cet après-midi dans Le Monde et dans les kiosques. Merci Pierre, à mardi prochain. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour.
Affaires sensibles, sans transition dans un instant, quel sera le thème?
Sans lien avec ce qui a précédé l'affaire du Carlton, notamment.
Oui, sans lien, effectivement.
Et notamment dans laquelle le DSK a été cité, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Je rappelle qu'il était relaxé, hein, tout de même. Et nous en parlerons avec notre invité, notre consoeur Ondine Millot, chronique judiciaire, qui a suivi le procès pour le journal Libération.
Les transitions sont trop faciles pour vous en ce moment.
Elles sont drôles, en tout cas.
À tout à l'heure.